Comme toujours dans ces colloques, on pense qu'on aura beaucoup de temps pour la discussion à la fin de l'affaire, mais vos exposés ont été tellement denses qu'il nous reste finalement qu'un quart d'heure, mais un quart d'heure, c'est déjà bien. Donc je vais proposer immédiatement d'ouvrir à la salle. Vous poserez votre question. Je vous demanderai juste de vous identifier si on ne vous qu'on puisse bien savoir d'où vous parlez, au propre comme au figuré, et je répéterai votre question de manière à ce qu'elle soit bien consignée dans les enregistrements et qu'elle soit bien traduite. Voilà, il nous reste un bon quart d'heure, donc sans aucun ordre particulier, sinon celui de votre audace et de votre verve. Qui veut lancer la discussion? Alors, le thème est très ouvert, évidemment, puisqu'on vient de faire un état des lieux. Il n'y a pas de thématique spécifique, mais vous pouvez soit compléter ce qui a été dit, qui paraît difficile en l'occurrence, soit éventuellement rebondir sur un des éléments qui a été évoqué ici, ou simplement enrichir de votre propre point de vue.
Donc, je suis Bernard Dubuisson du CSA Belge. Je voulais savoir un petit peu, dans tous les exposés très intéressants qui ont eu lieu, est-ce que la grande différence qu'on peut faire entre des radios associatives en Europe ou en Amérique latine ou en Afrique, c'est pas par rapport à la relation à leur environnement médiatique? C'est-à-dire qu'en Europe, les radios associatives sont un peu face à un paysage extrêmement développé, que ce soit au niveau du service public ou au niveau du service privé.
Juste. Ma question, c'est est-ce que la différence qu'on peut faire entre les radios associatives sur les trois continents ne sont pas plus influencées par leur environnement que par leur identité? Donc, c'est-à-dire face, par exemple, à un paysage du service public africain qui est pas toujours très bien financé et très porteur, est-ce que justement là-bas, les radios associatives n'ont pas un peu un rôle plus important par cet environnement qui est parfois déficient, par rapport justement à la question européenne, où là on a justement un service public beaucoup plus fort et donc des radios associatives qui sont parfois un petit peu, qui ont un peu plus de mal à trouver leur place dans le paysage, ou qui sont plus effacées par rapport justement à la défense du service public. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez réagir par rapport à ça, par rapport à cette question de l'environnement et de la manière dont la position des radios associatives dans leur environnement?
Oui, c'est tout à fait vrai, en particulier donc dans le cas africain, parce que les radios publiques, qu'il faut appeler radios d'État, enfin, en ce moment, oui, les radios d'État essayent de se restructurer un peu, de devenir véritablement des radios publiques, mais jusqu'à récemment et encore dans un certain nombre de pays, il faut parler plutôt de radios d'État, parce que c'est des radios donc financées par l'État, mais utilisées par l'État, enfin, en particulier ceux qui sont au pouvoir, comme des outils de propagande de leur politique, etc. Et même si depuis le milieu des années 1990, donc ces radios-là, ce secteur public essaye de se restructurer, de se diversifier aussi, en particulier en multipliant les radios locales, des radios locales, en multipliant aussi des radios, enfin des antennes locales de la radio nationale, etc., de façon à ce que la parole publique soit portée partout. Il est vrai que ce sont les radios associatives et communautaires qui sont véritablement la base, qui servent le bien public, quoi, finalement. Donc le service public est véritablement porté par ces radios-là sur plusieurs plans. Sur le plan de la diversité culturelle, déjà, elles remplissent des missions que la radio publique ou la radio d'État, encore à la capitale, ne peut pas remplir. En particulier, couvrir les différentes langues du pays. La radio d'État ne peut pas, à moins de diffuser, je ne sais pas, 50 heures par jour, c'est pas possible de couvrir les langues. Et donc, les radios associatives jouent un rôle important dans ce sens-là. La diversité culturelle aussi, à d'autres égards. Donc, c'est véritablement, oui, le contexte qui permet de voir l'importance de ces radios-là. Au niveau du développement, c'est pareil. On a essayé pendant longtemps de faire en sorte que les radios d'État deviennent des outils pour le développement des outils pour promouvoir la démocratie, pour lutter contre les conflits, pour la paix sociale, etc. Mais c'est difficile, effectivement, de façon centralisée comme ça, de remplir toutes ces missions-là, évidemment. Donc, ce sont les radios associatives qui le font le mieux. Et donc, effectivement, ça leur donne une grande importance.
Oui et non. Oui et non. oui, pour les mêmes raisons qu'il a évoquées. D'ailleurs, nous, pour très très longtemps, même avec le Community Media Forum, on parlait des radios associatives comme des radios avec un intérêt public. Mais on sait très bien que le service public et l'intérêt public sont deux choses un peu différentes. Mais il y a beaucoup de pays où le service public est complètement sur la défensive et il n'y a pas de radio associative qui se développe. C'est le cas de très nombreux pays en Europe orientale, beaucoup de pays même en Amérique latine. Et il y a des pays en Amérique latine où, par contre, on fait des grands pas en avant sur les médias associatifs. Il y a deux semaines, l'Équateur a voté la nouvelle loi audiovisuelle avec une répartition des fréquences, 34% pour les médias associatifs, 33% services publics, 33% services commerciaux. Donc, oui et non.
Oui, je crois qu'au Brésil, dans certaines parties, oui, c'est un manque d'un vrai service public et tous les problèmes des réseaux de l'État, en fait, parce que voilà, si on a un bon président, un bon gouverneur, les radios marchent bien, sinon, ils vont changer complètement la programmation. Et aussi, parce que d'une certaine façon, les mêmes mouvements qui demandent l'ouverture de l'accès au système médiatique et la création des chaînes publiques sont de certaines façons imbriqués avec les mouvements qui demandent des radios associatives communautaires. C'est des mouvements qui sont plus ou moins ensemble, en fait. Il y a un grand forum qui s'appelle le Forum national de démocratisation des communications qui rassemble des demandes communes. Par contre, je crois que dans le cas brésilien, ça s'appuie aussi dans une tradition d'une presse alternative des gauches des années 70 et d'une presse syndicale des mouvements sociaux des années 80 et qui vont aussi donner lié à certaines à ces expériences de radio associative. Alors, je ne crois pas que c'est seulement à cause d'une espèce de remplacer l'absence de système public.
Mm-hmm. Question suivante.
Voilà. Je m'appelle Pierre Hameau, je suis membre d'une radio locale indépendante associative. À Beaumont, Radio Salamandre. Mais il y a une question, on a parlé de l'Afrique, on a parlé de l'Europe, bien entendu, de l'Amérique latine, mais l'Amérique du Nord, qu'est-ce qui se passe là-bas au niveau radio associatif? Est-ce qu'ils existent ou il n'y en a pas? Pourtant, ce sont deux grands pays démocratiques. On aurait bien voulu savoir un petit peu, par curiosité.
Je peux juste dire. Je ne suis pas un expert de l'Amérique du Nord, hein, je pense que. Mais en Amérique du Nord, par exemple, il y a quelque chose qui s'était développé, qui était très intéressant un peu sur le modèle brésilien, ou plutôt, je pense, le contraire. Je pense que c'était le modèle brésilien qui a un peu pris le modèle de l'Amérique du Nord. Et donc, c'est ce low power broadcasting. Donc, c'est vraiment le système de diffusion et de micro-radio avec très, très bas puissance des émetteurs. Ce qui fait que l'année dernière, ce mouvement, il a même gagné un procès contre la FCC, qui est la Federal Commission pour la communication, et cette commission fédérale pour la communication a libéré des fréquences au niveau des États-Unis pour permettre à tous ces groupes de micro-broadcasting donc d'avoir accès aux ondes. Ça, c'était quelque chose de très remarquable, parce que c'est un mouvement qui, pour très longtemps, s'était battu pour l'accès aux ondes, et ils ont gagné contre la commission fédérale. Même il y a des groupes au niveau des universités qui stimulent et qui travaillent pour la promotion des micro-émetteurs et donc des petits kits do-it-yourself avec lesquels un peu, je ne sais pas, moi je suis de la génération du Mécano quand on était petit, et donc c'est un peu plus ou moins le même système dans lequel on vous dit transistor B4 en A3 etc., etc. Et on peut construire des émetteurs. C'est un système d'ailleurs très intéressant. surtout pour les printemps arabes. Et donc nous sommes en train de stimuler et d'essayer d'introduire cette philosophie même auprès des acteurs de la communication sociale du printemps arabe. Mais je ne suis pas un spécialiste des États-Unis.
À la génération Mécano a succédé la génération IKEA, comme vous le savez. C'est aussi voilà. Fait de vous-même, avec un peu moins de créativité. Donc, merci. Alors, pendant qu'on y est, l'état des lieux n'avait pas du tout prétention d'exhaustivité. Je pense que la question est pertinente. Mais est-ce que peut-être on peut dire un mot de ce qui se passe en Asie-Pacifique? Est-ce qu'il y a des choses très spécifiques là-bas, ou est-ce que ce qu'on a dit est un peu transposable?
Bon, en Asie, il y a le grand essor des radios associatives en Inde. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui a commencé il y a 4 ou 5 ans, plus ou moins, mais qui est maintenant, qui représente un secteur immense. La récente ouverture des ondes de radio associatives au Bangladesh, c'est aussi quelque chose de très, très intéressant. Il y a encore de nombreux pays où les radios associatives ne sont pas développées, mais on enregistre un mouvement très fort dans des pays comme l'Indonésie. La prochaine conférence de la marque en Asie-Pacifique va avoir lieu en Corée.
Du sud.
À Pyongyang. et donc, là aussi, les radios sont très, très actives. En particulier, elles sont en train de mettre en place des mécanismes pour la question des désastres naturels et donc des techniques de réseautage et si vous voulez, de mise en réseau non seulement des ressources techniques, mais aussi humaines, pour essayer donc de travailler ensemble face aux calamités naturelles. Donc c'est aussi un mouvement très très intéressant. Si on regarde d'ailleurs à l'Asie centrale, c'est aussi très intéressant parce qu'il y a un mouvement de radio associative au Kirghizistan. Au Kazakhstan, dernièrement, au mois de novembre, il y a eu une conférence très importante sur laquelle il y a eu des résolutions et des préconisations très concrètes sur le développement des médias associatifs en Asie centrale. Donc, je veux dire, c'est quelque chose là aussi qui est à l'ordre du jour. Et c'est pour ça que je dis, c'est encore plus frappant, la dichotomie entre la parole et les faits.
Merci. On a encore le temps pour une ou deux questions.
Bonjour, Florence Lecam de l'ULB. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant ce matin parce que vous êtes tous passés au travers de la tentative de définition de quoi on parle-t-on dans ce colloque pendant deux jours. Et moi, je voulais savoir, donc, vous êtes chercheur, membre d'instances associatives ou de régulation. Les définitions que vous nous avez données, ce sont des définitions institutionnels qui ont progressivement été élaborés dans un cadre de régulation dans les pays dans lesquels vous êtes, enfin, dont vous parlez, ou alors ce sont des définitions indigènes, c'est-à-dire les acteurs du milieu radiophonique associatif et communautaire qui eux-mêmes se définissent. En fait, moi, ma question maintenant, c'est d'où viennent vos définitions, quoi ?
Oui, c'est un peu ce que j'avais essayé, Florence, c'est un peu ce que j'avais essayé de dire tout à l'heure. Les institutions, dans un certain nombre de pays, les institutions de régulation utilisent le terme associatif. Le terme associatif et les acteurs s'appellent communautaires.
Ça, politiquement.
Oui, ça.
C'est super important.
Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Mais en même temps, alors politiquement, c'est super important, mais en même temps, il y a un certain nombre de jeux. Moi, je connais un monsieur qui a une radio et qui pense que c'est une radio communautaire, qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas du tout.
Ça se passe.
On le trouve dans plusieurs pays. Et donc, il y a un décalage entre le statut juridique et la pratique, et en particulier l'image qu'on voudrait renvoyer, quoi, enfin, voilà, au niveau local en tout cas.
Moi, je pense qu'au niveau de définition, c'était un grand débat ici en Europe autour de 2006-2007. C'était avant la résolution du Parlement européen. Pourquoi ? Parce que même sémantiquement, radio associative, radio communautaire, Freiradio, local radio, etc., etc. ont des significations très différentes. L'organisation All-On aux Pays-Bas nous dit que tous les médias locaux, les radios locales, c'est des radios associatives. J'ai quelques doutes. Et c'était un immense débat sur lequel, à la fin, on a trouvé, si vous voulez, une solution qui est à moitié entre l'institutionnel et l'autodéfinition indigène, comme vous l'aviez définie, sur laquelle, dans la résolution du Parlement européen, il y a X critères sur lesquels nous appelons les radios associatives et nous les évoquons dans les différentes langues. Donc, ce qui est la radio associative, which is called community media, les radios communautaires, etc., etc., Free Radio. C'est un débat, d'ailleurs, qui est encore à l'ordre du jour en Allemagne, où, justement, à cause des radios communales qui ont donc des antennes sur la municipalité, il y a une association qui est donc l'association de ces radios communales qui s'appelle BOC et il y a l'association des radios libres qui s'appelle BFR. Si vous dites au BFR qu'il y a d'autres radios associatives dans une association qui s'appelle BOC, je ne pense pas qu'ils auront une bonne réaction. Donc la question des définitions est encore à l'ordre du jour et c'est quelque chose qui va au-delà d'une question purement sémantique et qui est quelque chose qui a à voir avec la culture, avec l'ancrage social de ces radios aux années 70 et 80, quand il y a eu la libéralisation des ondes. Et c'est là aussi qu'il y a cette immense diversité que j'évoquais au début de mon intervention. Il y a des radios qui sont très engagées avec les mouvements sociaux, il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Et elles sont toutes les deux des radios associatives. Il y a des radios confessionnelles, elles sont toutes des radios associatives.
Et peut-être Jean-François Furnemont nous dira-t-il cet après-midi si les PRA a pu se mettre d'accord, si les régulateurs ont pu se mettre d'accord entre eux sur une définition.
J'en doute. Ça serait sympa. Ouais.